veux dire qu'on est dans un programme informatique?
Est-ce vraiment si invraisemblable?
Drôle de jeu. Pour gagner, il ne faut pas jouer.
Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital.
Ce gars-là est allé jusqu'à obtenir des informations sur toi. S'il est fort, il pourrait accéder à tout.
C'est exactement ce dont j'ai besoin. Un site sécurisé où je peux laisser ce virus évoluer à sa guise.
Just a regular cybersecurity engineer. But I'm a vigilante hacker by night.
Qu'est-ce qu'on obtient?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cet été, France Culture vous propose chaque week-end de passer un moment scientifique. Tous les dimanches de juillet, nous explorons ce que la science informatique peut nous apprendre de l'univers numérique dans lequel nous baignons et nous rappelons quelques-unes des grandes étapes de sa jeune histoire. Ce parcours, c'est en compagnie de Gérard Berry, professeur au Collège de France, où il occupe la chaire Algorithmes, Machines et Langages, que nous le faisons, avec lui et avec un autre invité à qui il a proposé un dialogue. Après avoir exploré la semaine dernière les méandres de la science des données, nous plongeons aujourd'hui dans un sujet pour le moins romanesque. Il sera en effet question de pirates, de codes secrets, de portes plus ou moins bien fermées, de barrières à franchir et d'autres à construire, d'énigmes insolvables et de génies sachant les déchiffrer. Aujourd'hui, gros plan sur l'univers de la sécurité informatique et de la cryptologie. Bonjour Gérard Berry.
Bonjour.
C'est avec David Nakache, professeur à l'École normale supérieure et responsable du groupe de recherche en sécurité informatique de l'ENS que vous avez choisi de dialoguer aujourd'hui sur ce sujet. Bonjour David Nakache.
Bonjour.
Une question en préambule pour ouvrir ce dialogue. C'est quoi un cryptologue ?
Un cryptologue est quelqu'un qui fait de la cryptologie. La cryptologie est la science qui concerne la création de codes et l'attaque des codes.
I don't understand.
Are you blackmailing me?
So that's what this is about. Money. That's all you care about. No. You will inform the police anyway.
Actually, you're right. Partly.
Wait, hold on. I'll give you the money. I'll pay you. How much do you want? I'll pay you.
That's the part you were wrong about, Rohit. I don't give a shit about money.
À l'instant, un extrait du premier épisode de la série américaine Mr. Robot. Je ne sais pas si vous connaissez l'un et l'autre cette série. Elle met en scène un hacker de nos jours, c'est-à-dire un pirate informatique. Dans la scène qu'on a entendue à l'instant, ce hacker, grâce à ses talents d'informaticien, est parvenu à démasquer un réseau de pédophilie et dénoncer le chef de ce réseau à la police. Dans cet imaginaire, donc, le hacker est une sorte de justicier. Il œuvre même de façon un peu caricaturale ici pour le bien. Mais si on remonte quelques années en arrière, Gérard Berry, ce furent quoi les premiers pirates de l'histoire? Autrement dit, quand est-ce que le problème de la sécurité informatique est apparu?
Mais il est apparu progressivement. Au début, les ordinateurs n'étaient pas reliés entre eux, donc c'était beaucoup plus simple. Il y avait des centres de calcul avec des gens. Bon, il y avait des problèmes de sécurité, mais comme d'habitude, je dirais. Et c'est avec l'arrivée des premiers réseaux, des premières, ce qu'on appelle stations de travail, maintenant les PC, que ça a été généralisé, parce que les ordinateurs se sont mis à se parler, et donc on pouvait y rentrer de l'extérieur, ce qui n'était pas possible avant. Donc ça, dans les années milieu, les années 80, moi j'ai vu les premiers virus apparaître, qui étaient faits par des copains, mais c'était des virus rigolos. Par exemple, une petite araignée qui mangeait mes fenêtres, et si on cliquait pas dessus assez vite, elle se dupliquait à toute allure, il y en avait plein l'écran, et on était fichu. Donc ça, c'était pour s'amuser. Puis après, les virus sont arrivés beaucoup plus forts, avec des gens qui, dont on, je connais pas exactement les motivations, David doit les connaître mieux que moi, des gens qui essayaient de détruire beaucoup, de détruire les données, casser les machines et tout, dans un but souvent de montrer leur force aussi, mais c'était aussi une époque où c'était pas dur, c'est-à-dire que les machines, la protection était absolument minimale. Avec Internet, les protections ont commencé, mais c'est très compliqué, la cryptologie. Il y a deux sujets dans la cryptologie, il y a la fabrication de codes d'encodage d'informations, de codes secrets, et puis là, ce qu'on appelle les protocoles de sécurité, qui permettent par exemple d'échanger des clés et qui sont très fragiles. Et par exemple, quand on appelle HTTPS sur Internet, qu'on va sur un site sécurisé, eh bien, il y a des protocoles qui sont quand même pas mal fragiles encore, et sur lesquels beaucoup de gens travaillent. Et il y a des codes cryptographiques qui sont moins fragiles, mais difficiles.
David Nakache, vous êtes d'accord avec cette idée que, en fait, c'est Internet qui nous fait basculer dans un univers où le problème de la sécurité informatique se pose de manière vraiment cruciale?
Oui, tout à fait. Alors, Internet, c'est-à-dire la connectivité que Gérard a évoquée, qui est un facteur majeur de risque, puisque lorsqu'on a un point qui a été compromis dans le réseau, eh ben, la compromission peut se propager. L'autre facteur qui est très important, c'est la course effrénée à l'innovation, qui fait que nous changeons de modèle de téléphone mobile, de tablette, de PC à une vitesse extrêmement rapide. Et chaque fois que nous avons un dispositif nouveau, eh ben, nous avons aussi des nouvelles occasions de pouvoir trouver des failles dans ce qui a changé. On n'est pas statique, comme dans d'autres sciences, hein, dans lesquelles on étudie essentiellement la nature. Ici, on est en train de travailler sur un produit de l'activité humaine, et ce produit de l'activité humaine se renouvelle sans cesse et nous ouvre des nouvelles portes.
Et donc concrètement, ce serait quoi les domaines aujourd'hui où il est devenu nécessaire, dangereusement nécessaire, de renforcer la sécurité informatique, par exemple? Dans quel type de domaine vous œuvrez, David Nakache?
Alors, typiquement, la sécurité des objets connectés. C'est quelque chose qui est très à la mode. Prenez le cas, par exemple, d'un pacemaker qui doit pouvoir se programmer, se paramétrer ou se charger sans avoir à ouvrir le patient. Donc, on veut de la médecine non-invasive et donc il va falloir, lorsque le patient évolue, changer l'état ou les paramètres de son pacemaker pour ne pas avoir à tout changer. Et ben, si ça n'est pas protégé correctement, ben, il est possible de simplement, dans le métro, arrêter le pacemaker de quelqu'un en lui faisant parvenir une commande d'arrêt ou simplement l'affoler.
Mais il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui s'amusent à arrêter les pacemakers.
Alors, sur les premières générations, sans qu'il y ait véritablement d'attaque sur les pacemakers, il y a eu des publications qui démontraient que c'était possible. C'est-à-dire qu'ils ont pris des pacemakers qui n'étaient pas protégés. Bah, les médecins ont en tête le bien du patient, donc c'est pas quelque chose auquel ils vont penser naturellement. Et puis, des chercheurs ont démontré comment on peut prendre un pacemaker du commerce et puis l'arrêter, l'accélérer, etc.
Bon, donc, c'est-à-dire que même si concrètement, il n'y a pas de méchant pirate derrière, à partir du moment où on détecte une faille, eh ben, il est normal de se prémunir contre une défaillance possible du système.
Absolument, absolument. Alors, bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque les pacemakers sont soumis à des normes très strictes, mais je vous donne un exemple. Alors, habituellement, lorsqu'on détecte une faille, même si cette faille n'est pas critique, eh ben, la règle, c'est-à-dire la règle de l'art, veut qu'on l'élimine aussi vite que possible. Si vous voulez, c'est pas parce que un avion de ligne peut voler avec un moteur en feu qu'il faut mettre le feu dans un moteur chaque fois qu'on décolle. Donc voilà, donc il y a urgence quand même chaque fois à réparer, à courir derrière l'innovation.
Gérard Berry, il y a d'autres domaines qu'on n'aurait pas cités.
L'Internet des objets est en train d'arriver. Alors là, on le voit très très fort. Par exemple, les voitures. Donc il y a un papier très remarquable qui est sorti en 2014 montrant que des chercheurs pouvaient prendre le pouvoir sur à peu près n'importe quel Jeep Cherokee aux États-Unis en rentrant par l'autoradio et qui pouvaient contrôler les freins, le moteur et tout ça.
Mais ça c'est pour des voitures destinées à être automatiques.
Non, des voitures avec
conducteur.
Des voitures comme la vôtre, si vous en avez une. Oui, tout à fait. Et pourquoi? Parce que dans ces voitures, il y a énormément de logiciels, dans les freins, dans le moteur et tout, et qu'on veut pouvoir le mettre à jour, comme pour le pacemaker, et que la sécurité n'est pas bien faite, parce que des gens des voitures, ben, ils n'ont pas encore compris que c'était un problème important, c'est des gens de la mécanique, ils n'ont pas le bon mental pour ça, et donc montrer qu'on pouvait, depuis n'importe quel terminal Internet, prendre le contrôle de la voiture en rentrant par l'autoradio, par les procédures de maintenance qui ne sont pas bien sécurisées. Un autre exemple, c'est la domotique. Donc on explique aux gens qu'il faut avoir tout connecté, les serrures, les lampes et tout ça. Et il y a une très grande firme coréenne que je nommerai pas, qui a fait un système qui a été cassé là de cette année, en mai. Et les gens ont montré qu'on pouvait, par exemple, ouvrir la porte, ce qui est pas gênant, mais beaucoup plus gênant, c'est le type d'attaque dangereuse, introduire un autre code dans la porte, sans que le propriétaire le sache, qui fait que si même le propriétaire se fait cambrioler et qu'il change son code, ça change pas, on peut toujours rentrer. Et que c'était une attaque pas difficile du tout à faire, parce que le système de protection n'était pas bien conçu. Faut savoir que c'est aux limites des possibilités intellectuelles, les systèmes de protection, de chiffrage. On est dans l'extrême difficulté de l'informatique, vraiment.
Il y a un autre domaine qu'on utilise tous de nos jours, qui est très concerné aussi par ces embêtements, c'est le domaine de la banque, la fois échanges commerciaux et à la fois échanges bancaires.
Juste un exemple de la semaine dernière, le réseau SWIFT s'est fait craquer, c'est le réseau interbancaire, donc où les masses d'argent qui circulent sont considérables, donc il s'est fait craquer la semaine dernière. Et la semaine dernière aussi, il y a eu au Japon, des centaines de retraits simultanés dans tous les de la somme maximale dans un nombre considérable de distributeurs dans toutes les villes du Japon, en même temps avec des fausses cartes bleues. Des cartes bleues qui n'existaient pas. Donc effectivement, le domaine de la banque, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'argent, donc... Et les banques d'ailleurs se rapprochent de plus en plus du téléphone, qui est plus facile à sécuriser qu'Internet.
Nakache, vous voyez acquiescer.
Alors là-dessus, heureusement, la France a un leadership fondamental. Nous avons en France deux énormes entreprises, l'une qui est le numéro un de la carte à puce, il s'agit de Gemalto, et la deuxième qui est le numéro un du terminal du paiement et de la transaction sécurisée, qui est Ingenico. Ce sont deux fleurons nationaux qui d'ailleurs font de la recherche de manière très massive, publient des articles, sont présents un petit peu partout et sont reconnus comme tels au niveau mondial. Donc je dirais que la France joue, grâce à ces deux entreprises, un rôle tout à fait fondamental dans la sécurisation des échanges mondiaux. Au point où une grande partie du marché chinois, par exemple, des transactions électroniques, est assurée par une filiale de cette entreprise Ingenico que j'ai citée, qui s'appelle Landi. Et aujourd'hui, on voit énormément d'innovations venir là-dedans. L'État français également met énormément d'efforts à encadrer et à favoriser l'émergence de nouvelles technologies à travers notamment un observatoire que la Banque de France fait vivre, qui s'appelle l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement. Donc nous avons vraiment un leadership là-dessus et c'est important de le garder.
Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les structures étatiques, en tout cas en France, ont conscience du problème que représentent les attaques sur ce type de système.
Tout à fait. Les entreprises comme le secteur gouvernemental, tout à fait.
Je ne parle pas allemand.
Comment êtes-vous supposé décoder les messages cryptés qu'échangent les Allemands si vous ne parlez pas allemand ?
Je suis exceptionnellement doué pour les mots croisés.
Margaret !
Les codes des Allemands sont des espèces de jeux, des casse-têtes, ni plus ni moins.
Margaret,
et pour les casse-têtes, je suis très fort. Pour les jeux. Et là, c'est un jeu. Simplement, c'est le plus compliqué du monde.
Margaret ! Oh non, pour l'amour du ciel. Vous devez plaisanter, forcément. Je vous souhaite un bon voyage de retour à Cambridge, professeur.
Enigma.
Vous m'avez appelé ?
C'est ça que vous faites ici. C'est ça le programme top secret de Bletchley. Vous essayez de déchiffrer les codes de la machine Enigma des Allemands.
Qu'est-ce qui vous fait penser ça ?
C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire, et les Allemands l'utilisent pour communiquer au plus haut niveau. Si les Alliés arrivent à casser Enigma, eh bien... Vous n'aurez fait qu'une toute petite guerre. Bien sûr, c'est là-dessus que vous travaillez. Mais vous n'arrivez à rien. Sinon, vous n'iriez pas chercher des cryptographes parmi les universitaires. Vous avez besoin de moi plus que je n'ai besoin de vous. J'aime résoudre des problèmes, commandant. Et Enigma est le problème le plus difficile qui soit.
Ce n'est pas un problème difficile, mais insoluble. Les Américains, les Russes, les Français, les Allemands, tout le monde pense qu'Enigma est inviolable.
Bien. Laissez-moi essayer, comme ça nous serons sûrs, au moins.
Je vous présente Enigma.
On entend à l'instant un extrait du film de Morton Tilden qui s'appelle Imitation Game, qui était sorti l'an dernier, et qui retrace le rôle qu'a joué le mathématicien Alan Turing dans le déchiffrement du code de la machine utilisée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, machine qui s'appelait Enigma et qui servait à coder donc des messages militaires. Cet extrait, parce qu'on a présenté pour commencer cette émission les enjeux contemporains du problème de la sécurité informatique, je voudrais maintenant qu'on explore un petit peu l'histoire de ce domaine, l'apport de Turing, en l'occurrence, dans le domaine de la sécurité informatique est tout à fait essentiel, hein, Gérard Béret.
Oui, enfin surtout dans le domaine de la vie des gens, parce que ça a quand même été absolument critique pour casser la guerre. Il y avait des travaux avant qui avaient été faits en Pologne sur une version d'avant d'Enigma. Enigma était une version qui faisait des permutations de lettres extrêmement sophistiquées, c'est une machine mécanique, et qui était très 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 performante effectivement. Et pour le casser, il a fallu faire ce qu'on appelle des réductions combinatoires massives, c'est-à-dire comprendre qu'on pouvait trouver des régularités statistiques, qu'on pouvait... Alors on ne sait pas tout ce qui a été fait, hein, ça a été gardé très secret. D'ailleurs, Turing lui-même est mort sans révéler le fait qu'il avait participé, parce qu'on lui avait demandé de ne rien dire, alors que vous savez, il avait été condamné pour homosexualité.
Et oui, il est mort tragiquement.
Personne ne savait qu'il avait sauvé l'Angleterre, entre autres.
Il a été réhabilité récemment.
Mais Turing, effectivement, c'est quelqu'un dont on a déjà parlé, qui a inventé l'informatique, qui a inventé des premiers cassages à grande échelle de cryptage, pas tout seul, ils étaient beaucoup, hein, puis des gens très forts, et qui a aussi inventé en biologie la morphogénèse, qui est comment les formes s'engendrent, les formes du vivant s'engendrent, et puis qui a aussi fait les débuts d'intelligence artificielle. Enfin, c'était un énorme génie. Et donc, casser Enigma, c'était une prouesse, parce que ce code est effectivement extrêmement dur. Et donc, ils avaient conçu des machines qui permettaient d'explorer énormément de choses. Mais le énormément étant plus grand que la taille de l'univers, il faut quand même choisir. C'est ça la grande difficulté, toujours dans le codage, c'est de faire des codes qui sont extraordinairement riches, très difficiles à décoder. Très difficiles à décoder pour qui ne sait pas les décoder, très faciles à décoder pour qui sait les décoder. C'est ça le principe.
David Nakache, est-ce que Turing, c'est le premier, est-ce que c'est dans l'histoire le moment où le domaine de la cryptologie rencontre celui de l'informatique? Est-ce que ce serait juste de dire
avant,
les choses?
Avant, il y avait déjà des rencontres entre la cryptologie et les mathématiques. Quand on regarde ne serait-ce que les concepteurs de la machine Enigma, donc avant même que Turing s'y intéresse, donc Scherbius, qui était le concepteur de la machine, a calculé le nombre de combinaisons, etc. Donc appliquer les mathématiques à la sécurité informatique n'est pas l'invention de Turing, mais par contre il s'agit d'une attaque qui est tout à fait magistrale et qui s'étudie et qui se mentionne sur cette machine. Le début de l'attaque, c'est-à-dire la graine de l'attaque, ce n'est pas son essence, mais ce qui a permis ensuite de dérouler un fil, était assez curieux. C'est le fait que lorsque la machine a été conçue, il a été considéré qu'un bon chiffrement est un chiffrement qui ne transforme pas une lettre en elle-même, ne peut pas transformer une lettre en elle-même. C'est-à-dire que si je prends David et je le chiffre, peu importe la clé, le D de David ne peut pas se chiffrer en D. C'est-à-dire, on est sûr qu'il a été chiffré, on est sûr qu'il a été transformé.
Chiffré, c'est-à-dire codé, hein,
transformé,
ce qu'on appelle le chiffrement.
C'est-à-dire substitué par une autre lettre, d'accord? Donc un D peut se substituer en A, en B, en C, en E, en F, en X, en R, en ce qu'on souhaite, mais pas en D, d'accord? Et vous voyez bien la faiblesse de ça, c'est que si je chiffre le même mot à une centaine de personnes, avec des clés différentes, il suffit de regarder quelle lettre n'apparaît pas dans les différents messages, et cette lettre qui n'apparaît pas révèle la lettre D qui a été chiffrée, puisque chaque fois on va soigneusement l'éviter. Donc un bon système de chiffrement va pouvoir transformer n'importe quelle lettre en n'importe quoi, y compris en elle-même, d'accord, avec une égale probabilité, mais surtout pas avoir des distorsions statistiques de la sorte qui était ce à quoi Gérard a fait allusion. Et donc à partir de là, lorsque vous n'avez pas suffisamment de messages qui étaient chiffrés avec la même clé, etc., il fallait faire des mathématiques assez compliquées et puis construire les dispositifs qui permettaient de mécaniser ces calculs-là.
Oui.
Et effectivement, ce sont les Polonais, Marian Rejewski, qui est en fait le premier qui a eu le début des idées pour pouvoir construire ce qu'on appelait la bombe, qui était le nom de la machine qui devait déchiffrer l'énigme, parce qu'il faisait du tic-tac comme une bombe, a fait la première étape qui ensuite a été reprise par des Anglais, des Français, ainsi de suite.
Oui, en fait, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, c'est le moment aussi, par là, où les mathématiques deviennent l'outil premier du chiffrement et du décodage.
Absolument, absolument. On sort de l'empirisme, c'est à peu près la période à laquelle on commence à mécaniser le calcul, aussi bien au niveau chiffrement que déchiffrement. On sort de la compréhension empirique, on essaie de mettre une véritable théorie mathématique sur la transformation des messages d'intelligibles en non-intelligibles.
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler qu'à part ça, la cryptologie remonte au fond à la plus haute antiquité. L'art de coder des messages, c'est vraiment pas chose nouvelle.
Alors l'art de coder n'est pas une chose nouvelle, effectivement. Donc on trouve des hiéroglyphes qui sont écrits d'une manière qui n'est pas évidente au lecteur, donc on peut considérer que c'est soit une manière d'écrire un peu particulière, soit destinée à cacher la signification immédiate d'un message. Les Grecs aussi disposent de techniques qui leur permettent de faire de la transposition de lettres. Ensuite, on trouve chez les Romains aussi bien des dispositifs très primitifs de chiffrement.
J'ai lu plusieurs fois revenir l'expression du terme du chiffre de César. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est le chiffre de César?
C'est très très simple. En fait, il s'agit d'une table de substitution dans laquelle vous avez une correspondance entre la lettre A et une autre lettre, bon, l'espèce par exemple le D, et vous continuez ensuite à décaler l'alphabet. Donc vous décalez chaque lettre de l'alphabet d'un certain nombre de positions.
Oui,
et voilà, on appelle ça le chiffrement de César. Alors évidemment, lorsque vous arrivez à la fin, et ben, vous voyez que ben, il vous manque des lettres. Et donc là, ce que vous faites, c'est que vous revenez au début et vous utilisez celle au début que vous n'avez pas utilisée. Alors sur un système aussi simple que le chiffrement de César que vous évoquez, ben, on commence déjà à rencontrer des propriétés mathématiques qui sont très évidentes et qui permettent de bien comprendre par quel angle on s'intéresse à ça. Par exemple, un système de substitution alphabétique de cette espèce va préserver la fréquence des lettres. C'est-à-dire, si la lettre A, la lettre E sont des lettres qui sont fréquentes, bah, leurs chiffrés, c'est-à-dire ceux qu'on va utiliser à leur place, vont rester tout aussi fréquents. Donc, en faisant des statistiques, comme ce qu'avait dit Gérard avant, eh ben, on pourrait commencer à deviner quel est le message chiffré. Il y a d'ailleurs des gens dans le passe-temps. Donc, il y a des clubs qui font ça. Bon. Et d'autres choses qui sont moins triviales. Par exemple, si vous faites un chiffrement par substitution 2 fois, 3 fois, 5 fois, 1000 fois, c'est-à-dire 1000 tables, eh ben, il est tout aussi sûr qu'un chiffrement avec une seule table. Parce qu'il existe une table équivalente qui factorise toutes ces tables. Donc, ce n'est pas parce que vous faites du surchiffrement qu'il deviendra plus sûr. Voilà, quelques-uns des paradoxes apparents.
Oui, Gérard Berry, vous vouliez réagir ?
Oui, je voulais dire que il y a pas que le chiffrement des messages. Il y a par exemple des choses que les gens soupçonnent pas trop. Par exemple, les mots de passe. Donc, si on met un mot de passe qui est dans un dictionnaire, il n'y a rien de plus facile à attaquer parce qu'un dictionnaire, c'est tout petit. Si on dit aux gens de faire un mot de passe de 8 lettres, ben, les mots de passe les plus fréquents au moment où la sécurité a été introduite, c'est, ça a été blanc, un blanc et 1, 2, 3. Et le mot de passe le plus fréquent sur Internet, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour un pirate, c'est pas très loin à casser. C'est difficile de faire. La question est difficile pour les hommes parce que il faut avoir beaucoup de mots de passe différents parce que si on met le même partout, si on se fait craquer à un endroit, c'est foutu. Et si on en met tout des plein de différents, ben, on se rappelle pas. Donc, c'est un problème que tout le monde connaît.
Alors, mot de passe différent, d'accord, mais si on, sur un seul mot de passe, c'est quoi? Parce que ça, c'est un problème qui nous concerne
tous. Alors,
pour
craquer un mot de passe.
Non, ce serait quoi le bon mot de passe, du coup? Si je veux utiliser un mot de passe sûr, personne ne puisse me voler.
C'est pas à la radio, il faut raconter ça. On peut, il y a des méthodes assez classiques de prendre des anagrammes, des premières lettres de textes, etc. Bon, c'est pas une question simple. Il n'y a pas de méthode garantie.
Pour l'adresser. En fait, un bon mot de passe est un mot de passe qui est aléatoire. L'aléa n'est pas une propriété du mot de passe. C'est une propriété de la source qui génère les mots de passe. D'accord ? Donc, on ne peut pas parler à proprement dit d'un bon mot de passe, mais plutôt d'un bon générateur de mots de passe. Le mot de passe en lui-même n'est ni bon ni mauvais. Ok, c'est comme jouer au loto, si vous voulez. La séquence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elle a autant de chances à sortir qu'une séquence qui vous paraît aléatoire. Donc, en fait, l'aléa est une propriété de la source, pas de l'information qui a été, pas d'une information individuelle générée. Alors, après, on a des tests, on a des bons moyens, etc. Alors, il y a énormément de recettes, mais comme dit Gérard, ça serait difficile d'entrer.
Oui, je comprends. Mais sachant qu'en général, les gens qui cherchent à craquer, comme on dit, les mots de passe sont des êtres humains, si je rentre ma date de naissance, on peut imaginer que quelqu'un qui me connaît aura plus de facilité à deviner ce mot de passe.
Alors, il existe des générateurs de mots de passe qui permettent de générer de manière automatique un mot de passe, donc il faudrait se souvenir. Et puis, aujourd'hui, on arrive de plus en plus sur des mots de passe qui sont visuels, des gestes, et aussi on arrive à des systèmes qui sont sécurisés sans mots de passe, c'est-à-dire qui apprennent et qui comprennent que leur utilisateur est bien leur propriétaire. Donc on utilise pour ça de l'apprentissage supervisé. Donc vous allez utiliser votre téléphone mobile, vous allez aller sur Internet, faire toutes sortes de choses. Le téléphone arrive par des différentes méthodes à distinguer votre comportement et puis vous n'avez pas besoin d'entrer dans votre mot de passe. Notamment des systèmes de paiement commencent à utiliser ça ou s'intéresser à ce genre de choses aujourd'hui.
Messages from the unseen world. Messages from the unseen world. Arthur Stanley. Hyperboloids of wondrous light. Rolling for age through space and time.
Vous êtes sur France Culture à l'écoute de l'émission Les Passeurs de Sciences. Comme tous les dimanches de juillet, nous parlons d'informatique et aujourd'hui de la question de la sécurité informatique avec Gérard Berry et David Nakache. Alors, la plus ancienne forme de chiffrement, ai-je lu, est la cryptographie que l'on appelle symétrique ou encore à clé secrète. Vous allez me corriger si je me trompe. Donc, si j'ai bien compris, il y a deux types de cryptographie. Il y a la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique. David Nakache, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux domaines ?
Oui, elle est très facile et assez évidente. Alors, je vais utiliser simplement une image. Les auditeurs qui sont un peu plus seniors se souviennent de cadenas pour lesquels on avait besoin de la clé à la fois pour ouvrir et pour fermer. On ne pouvait pas les cliquer, pas ce mécanisme de clic. Ça, c'est la cryptographie symétrique. C'est-à-dire que si je vous envoie par la poste une boîte en bois qui contient un objet précieux et que j'utilise ce cadenas pour la sécuriser, ben vous devez avoir la même clé que moi.
C'est pour ça. Il faut qu'on partage la clé.
Il faut qu'on partage la clé, c'est-à-dire que vous ayez une copie de cette clé pour pouvoir ouvrir la caisse en bois que je vous envoie. Ben, d'où le nom symétrique. Maintenant, les cadenas modernes sont tels que la capacité de fermer un cadenas n'implique pas possession de la clé. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait me donner un cadenas ouvert sans me donner la clé, je ne l'ai jamais vu. Et lorsque j'ai fini de mettre mon objet à l'intérieur de la caisse de bois, ben, je clique le cadenas sans avoir la clé. Je n'ai jamais vu la clé de ma vie. Vous m'avez donné le cadenas lorsqu'on s'est rencontrés à Lyon et puis vous m'avez dit... transporte ce cadenas et tu l'utiliseras lorsque tu voudras m'envoyer quelque chose. Et puis, un bout de la ligne, c'est-à-dire c'est chez lui qui reçoit la caisse en bois, et bien, il y a bien la clé. Et donc, on voit bien qu'on a un système où c'est lui qui ne possède pas la clé secrète, peut quand même chiffrer, c'est-à-dire la capacité de protéger l'information ou l'objet dans ce cas-là, ne nécessite pas la connaissance ou la possession de la clé. Par contre, le fait de pouvoir ouvrir la caisse requiert la possession de la clé.
Et donc ça, c'est un système plus sûr.
Vous voyez que ce système-là est asymétrique parce que il y a qu'un seul des deux interlocuteurs qui possède la clé. Alors maintenant, lorsqu'on parle de la sécurité, effectivement, on peut se dire que le fait de limiter la diffusion d'une clé est toujours une bonne chose. C'est-à-dire qu'au lieu que la clé puisse fuir de deux endroits potentiels, elle peut fuir d'un autre. Mais ce n'est pas tellement la sécurité qui intéresse ici, mais c'est plutôt la possibilité de déployer de manière facile, de communiquer avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés et qui ne nous ont pas donné de clé. Typiquement, vous allez sur Internet, vous allez acheter des objets ou des choses sur des sites, vous allez communiquer avec des gens que vous n'avez jamais rencontrés et qui n'ont jamais pu vous transmettre une clé pour sécuriser la conversation. Donc vous voyez que ce schéma-là est un schéma qui trouve énormément d'applications. Et surtout dans l'ère de l'Internet qui est caractérisée par des rencontres éphémères en ligne entre machines et entre personnes.
Donc concrètement, quand j'achète quelque chose sur Internet, j'utilise un système de chiffrement asymétrique.
Absolument. D'accord. Absolument. C'est-à-dire, lorsque vous allez établir une connexion sécurisée, donc le protocole SSL, dont par exemple Gérard a parlé avant, mais aussi lorsque vous allez utiliser votre carte de crédit, lorsque vous utilisez votre téléphone mobile, vous générez des chiffrements ou des signatures numériques qui utilisent ce principe asymétrique.
Alors, autre terme dont j'ai vu revenir pas mal l'occurrence en m'intéressant à cette question de la sécurité informatique, le chiffrement RSA, dont j'ai lu qu'il était un système de chiffrement essentiel. Gérard Berry, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi
RSA,
il s'agit?
RSA, c'est une belle histoire. D'abord, il y a Diffie-Hellman qui ont eu le prix Turing en 2016. Le prix Turing, c'est la plus grande récompense.
Donc Diffie-Hellman, deux ingénieurs américains.
Deux ingénieurs américains, deux chercheurs américains qui ont inventé justement, qui ont inventé et qui ont étudié de façon très systématique qu'est-ce qu'on pouvait faire avec un chiffrement asymétrique. Parce que le chiffrement asymétrique est plus cher quand même. Ça a un inconvénient, mais par exemple, on peut faire une double signature. C'est-à-dire, dans les systèmes de la boîte, le problème, c'est que moi, si je reçois une boîte, je suis pas sûr que c'est David qui me l'a envoyé. Donc, on peut faire ça en mettant deux boîtes enchâssées l'une de l'autre avec deux cadenas. Un que je lui ai envoyé et un qui m'envoie. Donc ça marche aussi.
Oui,
donc,
parce que vous parlez de boîte, parce que tout le truc, c'est d'envoyer des contenus d'information, mettre des choses dans ce cadenas.
Alors c'est pas seulement ça. Faut envoyer à la bonne personne, mais faut que la bonne personne sache que c'est la bonne personne qui a envoyé. Parce que ça pourrait être un pirate qui a envoyé la chose. Il pourrait avoir envoyé un truc nocif à l'intérieur de sa boîte. Mm-hmm. Donc, ce système d'asymétrie, quand on l'utilise deux fois, de façon astucieuse, permet de signer aussi, d'assurer, dans une certaine mesure, c'est toujours compliqué, parce que en sécurité, on a un problème, c'est qu'on connaît pas l'ennemi. Donc, l'ennemi a tous les pouvoirs. Donc, on se protège par rapport à certaines menaces. Donc oui, alors Diffie-Hellman ont donné le principe, mais personne ne savait fabriquer mathématiquement un objet qui faisait ça. Et trois chercheurs, donc deux Américains et un Israélien, Rivest, RSA, c'est Rivest Shamir Adelman. Mm-hmm. Rivest, j'ai eu la chance d'être dans son bureau pendant assez longtemps à Liria quand j'étais
Donald Rivest, oui.
Donc ils ont enlevé un moyen à base de nombres premiers. Les nombres premiers, ceux qui ne se divisent que par eux-mêmes ou par un, qui intéressaient absolument personne, hors les mathématiciens, sont tout à coup devenus des secrets. Parce qu'il faut fabriquer des très grands nombres premiers. En fait, une clé, c'est, vous prenez deux grands nombres premiers, vous les multipliez, c'est ça la clé. Et la sécurité de RSA, le protocole utilisé partout, enfin c'est un des protocoles, il y en a d'autres, mais utilisé partout, tout le temps, la sécurité, c'est qu'on ne peut pas, quand on connaît le produit des deux nombres premiers, retrouver les deux nombres premiers. Mais ça, on n'est même pas sûr que c'est vrai. C'est ce qu'on appelle une conjecture mathématique.
David Nakache.
On peut comprendre ça de la manière suivante. Si vous prenez une feuille de papier et vous sortez votre briquet, vous y mettez le feu, vous allez obtenir du CO2 et des cendres. Si maintenant je vous donne le CO2 et les cendres, je vous dis séparez-moi ça en oxygène et en feuille de papier, vous voyez que j'ai effectué une opération qui n'est pas réversible ou qui est difficilement réversible. Et donc la difficulté qu'il y a ici, c'est qu'une fois que j'ai généré deux nombres premiers avec des bonnes propriétés et que je les ai multipliés l'un par l'autre, eh ben il devient très difficile de les séparer pour pouvoir obtenir les nombres individuellement. Alors là-dessus, nous avons toute une série d'algorithmes qui essayent de s'améliorer en faisant ça. Mais comme disait Gérard, aujourd'hui, nous ne connaissons pas une méthode facile, c'est-à-dire rapide, qui permet de les retrouver. Le problème n'est pas pour autant exponentiel. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un problème qui est sub-exponentiel, c'est-à-dire qui n'est pas parmi les problèmes dans lesquels il faut effectivement, enfin, dans le meilleur algorithme consiste à tout énumérer. Donc, on a des choses qui sont plus efficaces que ça, mais pour autant, en fait, il n'est pas classé dans les problèmes faciles qu'on appelle techniquement les problèmes polynomiaux. Donc, en fait, c'est un problème qui est difficile sans pour autant être exponentiel. Ce qui amène à la remarque de Gérard, c'est que peut-être il y a effectivement un espoir de pouvoir un jour trouver un algorithme qui nous permettrait de factoriser de manière efficace.
Et pour revenir à l'usage concret de ces découvertes scientifiques, le chiffrement RSA concrètement, aujourd'hui, il sécurise quel type
La carte bleue, Internet en bonne partie. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres méthodes qui sont relativement analogues, mais c'est toujours basé sur la théorie des nombres. En gros, quelques milliards de transactions par jour, quoi. C'est pas tout à fait rien. Souvent, il est utilisé, comme il est assez cher en calcul, on l'utilise pour s'envoyer une clé symétrique. Ça, c'est une méthode tout à fait classique. Parce qu'après, on s'envoie la clé symétrique en toute sécurité. C'est ça. Et après, on peut utiliser un chiffrement symétrique qui est plus simple.
Voilà, donc on appelle ça l'emballage, le wrapping en anglais. Alors effectivement, ça consiste à générer une clé symétrique aléatoire, éphémère, c'est-à-dire qu'elle ne va servir qu'un seul échange. C'est ça ce que je mets dans la boîte en bois que je vous envoie. Et une fois que vous l'avez retrouvée à l'aide de votre clé publique, eh ben on utilise cette clé symétrique pour communiquer. Et la raison, c'est que la procédure de la boîte en bois est une procédure qui est assez lourde en calcul. Par rapport au chiffrement symétrique qui, lui, est plus simple.
Alors, en vous écoutant, je me pose une question. On parle de risque, de sécurité. Est-ce que, au fond, une sécurité totale dans ce domaine est possible, David Nakache ?
Alors, on prouve que non. On prouve que non, c'est-à-dire qu'on a une preuve mathématique. Alors souvent, on va entendre parler des hommes d'affaires, des marketeurs dans le domaine de la sécurité ou toutes sortes de cyberstratèges répéter la sécurité absolue n'existe pas, il y a toujours un risque, etc. Mais ce sont des affirmations plutôt de nature philosophique. Et bien, il se trouve qu'en mathématiques, en tout cas en informatique théorique, on arrive tout à fait à le prouver. Et c'est très intéressant et ça mérite de s'y attarder une demi-minute. Parce que ça se lie au célèbre Alan Turing dont vous avez parlé. Mm-hmm. Alan Turing a démontré qu'il n'existe pas de moyen de pouvoir déterminer si un programme arbitraire s'arrête ou rend un résultat. C'est-à-dire que Alan Turing a fait une preuve mathématique, qui s'appelle d'ailleurs le théorème de Turing, qui dit on ne disposera jamais d'un logiciel qui est tel que si on lui donne un programme, il va nous dire ce programme va vous rendre un résultat un jour, où il ne va pas rendre de résultats. Et donc on peut finalement être assis sur les épaules du géant Turing pour prouver qu'une sécurité parfaite n'existe pas. Alors comment on le fait ? C'est très simple. On va faire un programme qui génère une clé très secrète. Cette clé très secrète, c'est la clé de lancement des missiles nucléaires français. Mmh. Et puis derrière la génération de cette clé, on va mettre un programme arbitraire. Le programme que vous voulez. Et juste après ce programme, on mettra une instruction qui imprime la clé très secrète et qui la poste sur Internet. Vous voyez bien que si le programme arbitraire que j'ai mis entre la génération de la clé et son impression ne rend jamais de résultat, ce que je vous ai donné est un programme qui est sûr, puisque jamais la clé très secrète ne sera imprimée ou postée sur Internet. Par contre, si jamais le programme qui est au milieu, le programme arbitraire se termine, c'est une catastrophe, puisque je génère une clé, je fais quelque chose et ensuite je l'imprime. D'accord ? Et donc, décider si ce programme que je viens de vous décrire, je génère une clé, je exécute un programme arbitraire et ensuite je l'imprime, est sûr ou pas, me permet de réduire ce problème-là au problème de décider si le programme arbitraire s'arrête ou pas. Ce que Turing nous explique qui est impossible. Conclusion, il n'existera jamais un moyen qui nous permettra, étant donné un programme arbitraire, de décider s'il est sûr ou pas.
Il faut vivre donc avec l'incertitude ou avec l'angoisse dans ce domaine.
Nous sommes condamnés à cela.
Yeah.
Alors Gérard Berry, quand on a discuté de cette émission en préparation, vous m'avez parlé plusieurs fois d'un phénomène qui, quand vous en parliez, les étoiles brillaient dans vos yeux, j'ai nommé les canaux cachés. De quoi s'agit-il ?
Alors, le canal caché, c'est tout moyen non prévu pour casser un code. Par exemple, là, on disait qu'il fallait factoriser des grands nombres. Ça, c'est des maths. Et puis, il y a des gens qu'on pouvait montrer qu'on pouvait factoriser des grands nombres d'une façon totalement surprenante. Ben, par exemple, Shamir, le S de RSA, qui a fait énormément de choses en crypto, il adore trouver des méthodes pas standards. Par exemple, il s'est aperçu qu'on pouvait utiliser des propriétés de l'ordinateur qui calcule. Parce que quand il fait des divisions, par exemple, il se comporte pas du tout pareil suivant que les nombres sont simples, compliqués. Et que, par exemple, en mesurant sa consommation électrique, ou alors même en écoutant le bruit que font les résistances et les condensateurs dans l'alimentation de votre portable, avec un téléphone, en écoutant ça, il pouvait casser les codes.
Ça, c'est très angoissant.
Si
on se place dans une perspective de défense.
Non, c'est pas très angoissant, parce que, justement, ce qu'il y a de bien, c'est que Shamir, c'est pas un truand. Donc, il vaut mieux que ce soit... Les chercheurs jouent au chat et la souris, exactement comme les chercheurs, on parle de hackers, mais les chercheurs sont aussi des hackers. Eux aussi essayent de casser les codes, mais pour les rendre plus solides. Et donc, quand on trouve ça, ben, on dit, oula, il va falloir faire quelque chose. C'est beaucoup mieux que ce soit... C'est bien de le trouver avant et de le rendre public et puis de le réparer. Donc, un canal caché, ça veut dire que l'ennemi a tous les droits. Richard Feynman, prix Nobel de physique, qui était au projet Manhattan de la bombe atomique, était un casseur de coffres-forts. Et dans ses mémoires, il raconte qu'il a cassé une très grande quantité des coffres du projet Manhattan, le plus souvent en regardant sous les tiroirs des bureaux où il lisait le code marqué en clair, mais qu'un de ses amis, il n'a pas su comment, a cassé le code d'Oppenheimer, le code du grand chef du projet. Et voilà, donc c'était un canal caché, c'est-à-dire que en fait, le coffre-fort était tellement solide qu'il le livrait toujours avec le même code et que personne ne le changeait. Donc il suffisait de connaître le code de livraison. Voilà un canal caché. Donc les canaux cachés, ça, c'est très subtil parce que ça peut être arbitraire.
David Nakache, Gérard Berry nous disait tous les chercheurs sont des hackers, hein, ou ils le sont souvent. Est-ce que vous vous reconnaissez, vous concrètement, est-ce que vous vous décririez comme un hacker ?
Ça dépend qu'est-ce qu'on définit comme hacker, mais en tout cas, lorsqu'on conçoit un système, il faut le mettre à l'épreuve. Et on a toujours, ou on a fini par développer à la longue, un état d'esprit qui est celui qui consiste à aller tourner un objet dans tous les sens et essayer de trouver comment je peux le mettre à défaut, y compris par des méthodes non standards ou des méthodes qu'on imagine et que le concepteur, lui, n'a pas imaginé. Donc effectivement, si on se place sous cette vision-là, c'est beaucoup de maths, de physique, d'électronique, d'informatique et aussi de la créativité et de la bidouille. Je dis toujours à mes étudiants qui entrent dans le domaine qu'il leur faut trois choses pour pouvoir devenir un bon spécialiste de sécurité informatique ou un bon cryptologue. La première est une excellente boîte à outils, c'est-à-dire connaître véritablement très bien les mathématiques, les statistiques, l'informatique, l'électronique. Donc ça, c'est les outils qu'il leur faut. La deuxième chose qui leur faut, c'est de la ténacité et de savoir que souvent, il n'y aura pas de solution facile. Il va falloir passer des soirées, il va falloir passer énormément de temps à essayer de comprendre et d'analyser un problème très difficile. Et la troisième chose, c'est la créativité. C'est-à-dire essayer non pas de travailler dur ou de travailler avec des bons outils, mais aussi de travailler de manière intelligente et de manière qui était pas prévu par le concepteur du système. Vous voyez, lorsque vous prenez quelqu'un qui doit concevoir un pont, il se bat essentiellement contre les lois de la physique. C'est-à-dire que lorsqu'il a fait ce pont, avec les contraintes qu'il faut, le pont tient. De la même manière pour quelqu'un qui est un ingénieur chimiste, qui veut fabriquer un composé quelconque. La sécurité informatique est en fait un jeu entre deux humains, dans lequel l'échiquier est la technologie. Donc c'est ça ce qui rend cette science extrêmement difficile, parce qu'on ne se bat pas contre la nature, on se bat contre un être humain qui peut être retors, qui peut être imaginatif, qui peut être plus tenace que vous. Et donc c'est une sorte de science-jeu, mais
se mettre dans la peau de l'adversaire.
Peut-être dans la peau de l'adversaire, mais dans laquelle les enjeux sont extrêmement élevés, parce que lorsque vous avez une base de données contenant tous les clients d'une banque qui est divulguée, vous voyez bien ce que ça peut faire comme scandale.
Et qui finance aujourd'hui les recherches dans ce domaine en France? Est-ce que c'est l'université? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont des financements privés?
Alors, il y a trois grandes sources en France. Si vous parlez en fait de financement français et non pas européen ou mondiaux, effectivement, donc l'État, par exemple, aujourd'hui, l'ANSSI recrute qui est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, recrute assez massivement. Enfin, on peut même dire qu'ils assèchent le marché, c'est-à-dire que tout ce qu'on arrive à produire de bon, ou les universités arrivent à produire de bon, est recruté. Donc il y a l'État d'une part, les militaires au sein de la DGA, et qui sont des utilisateurs, consommateurs de sécurité informatique à haute dose, et puis ensuite bien sûr le secteur privé. Et donc c'est sur ces trois pôles-là que s'articule le positionnement de la France en termes de recherche en sécurité.
Et dans ce domaine-là, la France n'est pas à la traîne.
Elle n'est pas à la traîne parce qu'on travaille intelligemment. Par contre, lorsque vous regardez typiquement les investissements qui sont faits par la NSA aux États-Unis ou par les grandes universités américaines, on voit des investissements qui sont énormes par rapport à ce que nous faisons ici. Donc on a véritablement un défi qui est de pouvoir établir des coopérations avec d'autres pays européens pour pouvoir atteindre une masse critique, de sensibiliser à l'importance de ce domaine pour que effectivement on puisse non seulement avoir des fonds pour pouvoir faire de la recherche, mais aussi attirer des jeunes. Il devient de plus en plus difficile aujourd'hui de trouver des jeunes qui veulent véritablement mettre les mains dans le cambouis. Je le vois en tant que professeur, il y a un très grand engouement pour la gestion des systèmes d'information, l'audit des systèmes d'information, la gestion de projets informatiques. Ces masters-là ont un succès fou, mais quand il s'agit de faire des programmateurs, des programmeurs et des concepteurs qui font des maths et de l'informatique dure, les candidats se font de plus en plus rares.
Gérard Berry.
Oui, on peut dire que c'est un problème parce que le nombre de gens qui ont besoin de comprendre la sécurité augmente considérablement. Quand je dis, par exemple, en automobile, on peut rentrer dans des voitures. C'est parce qu'il n'y a pas les compétences. Quelqu'un de compétent, il s'attaque à ce problème avant qu'il se produise. Et là, quand les chercheurs disent on rentre dans une voiture facilement, c'est qu'il y a un problème. Donc aussi, on ne fabrique pas forcément des chercheurs en sécurité, mais les entreprises ont toutes besoin de comprendre comment se protéger. Et il faut des gens compétents en face. Et des gens compétents, c'est pas juste des gens qui ont lu un bouquin en 30 secondes. C'est difficile. Donc c'est un véritable problème social. On n'a pas assez de gens compétents dans le domaine. Et ce domaine n'attire pas les gens parce qu'il est dur. Supply. Everybody with piano, so multi-faced interface. Imagine they would be available like bananas. For every single human I apply for respect, for chaos that might be sense though, even hardcore.
Merci beaucoup Gérard Berry et merci à vous David Nakache de nous avoir accompagnés pour cette émission. Pour retrouver les références bibliographiques et musicales de l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture où vous pourrez aussi la réécouter et la télécharger. Cette émission est réalisée en partenariat avec le magazine Science et Vie dont le dernier numéro en kiosque, je vous le signale, est consacré aux théories du complot, un autre sujet romanesque. Pour la suite des passeurs de science, rendez-vous le week-end prochain, samedi pour le dernier épisode de notre série sur le cerveau, et dimanche prochain nous conclurons notre parcours informatique avec vous Gérard Berry. Il sera question des liens entre musique et informatique. C'était Les Passeurs de Science, l'informatique, une émission proposée par Mathilde Wagman et réalisée par Assia Khalid, avec aujourd'hui à la technique Claude Nior. I leave you alone. Did you ask me to get up? Remember, we develop a new quantum. Did you ask me for a new system? Remember, we develop a new birdland. Less quality creates ground. For higher resolution in music, for higher resolution.
If you need to be lonely. Family.